RCF. Barthabas, votre nom, votre histoire personnelle est intimement liée à celle du théâtre équestre Zingaro que vous avez fondé dans les années 80. Vos spectacles vous ont rendu célèbre dans le monde entier, des spectacles dans lesquels le cheval, je dirais presque plus encore que le cavalier, semble être le vrai héros. Les chevaux, vous les aimez passionnément et vous leur rendez un vibrant hommage dans votre premier livre intitulé « D'un cheval l'autre » que vous venez de publier chez Gallimard. Alors, lors de notre première rencontre, il y a une dizaine d'années, vous m'aviez dit une phrase qui est restée gravée dans ma mémoire. Vous m'aviez dit « Les chevaux m'ont aidé à vivre parmi les humains ». Alors j'aimerais que vous m'expliquiez en quoi les chevaux vous ont aidé à vivre parmi les humains.
Oula, c'est... c'est une longue histoire. Bah, disons que comme j'étais un naturel un peu impulsif, quoi, les chevaux m'ont déjà beaucoup calmé, quoi. C'est-à-dire qu'ils m'ont appris à me poser, à écouter, quoi. Ce qui peut rendre service avec les humains aussi. Et puis, de toute façon, je ne peux pas trop l'expliquer. J'étais un jeune enfant qui avait vraiment besoin de... Enfin, je supportais difficilement les règles des humains, quoi. On dit toujours besoin de liberté, c'est un peu un cliché, mais c'est vrai que les chevaux m'ont permis de capter un peu ça, de capter cette énergie, de capter de la rendre accessible aux humains, on va dire.
C'est beau parce que à travers ce livre que vous venez d'écrire, Barthabas, d'un cheval l'autre, vous vous livrez beaucoup. Parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un de pudique. Ouais. Et là, vous vous êtes livré beaucoup sous prétexte de parler de chevaux.
Bah, disons que c'est un peu le déclic qui m'a permis d'écrire ce livre. Je voulais vraiment faire pas commencer comme ça sur le thème d'un portrait de mes chevaux, mais vraiment d'essayer de les faire revivre, mais pas seulement, j'allais dire, anecdotiquement, même s'il y a les premières rencontres, toujours pour moi c'est assez important, quoi, avec mes chevaux, donc ce qui m'est resté, mais surtout vraiment ce qu'ils m'ont construit, ce qu'ils m'ont laissé, parce que beaucoup de chevaux ne sont plus là, hein, parce que là on parle de chevaux d'il y a 35 ans ou 40 ans, et c'était assez important de montrer que... Enfin, moi, je pense que je suis fait des chevaux que j'ai rencontrés. Ce sont eux qui m'ont fabriqué, pratiquement. Donc, d'essayer de se remémorer plus que le souvenir de leur existence, mais vraiment ce qu'ils m'ont apporté au niveau charnel, parce que le rapport, quand même, avec les chevaux passe par le corps, d'abord. Donc, j'avais envie d'écrire vraiment à l'os, quoi, de vraiment parler, pas parler technique au sens d'équitation du terme, mais vraiment parler physique, quoi. C'est-à-dire vraiment le souvenir de ce qu'ils m'ont laissé, ou pas, d'ailleurs, à une vertèbre près, j'allais dire, quoi, hein. Et après, ça t'amène à des sentiments, montrer en quoi ils m'ont construit, ils m'ont permis d'exister. Alors, évidemment, le long de ces anecdotes, il y a l'existence de Zingaro, du théâtre, entre guillemets, de la vie professionnelle, si on veut, quoi. Et puis, ça m'a permis de me livrer un petit peu, à travers eux, quoi.
Moi, je dirais un peu beaucoup même. On vous perçoit bien derrière ce livre et derrière ces chevaux. Vous avez, le texte principal, et puis de temps en temps, vous sortez des phrases en exergue.
Voilà, qui sont plus personnelles. Ouais,
et là, par exemple, vous dites à Zingaro, donc c'est-à-dire dans la troupe, on va dire dans le théâtre équestre, à Zingaro, je me sens parfois entouré de trop d'humains. Trois petits points. Trop de besoin d'amour. Les chevaux, eux, n'exige rien de moi.
Ouais, ben c'est tout dit, quoi. Voilà, c'est sûr, quand on travaille dans une compagnie, alors au début ça porte, le côté communion humaine, on va dire, ça porte. Et puis parfois ça peut être pesant, quoi, parce qu'il faut, mais quand... faut pouvoir assumer, il faut pouvoir répondre, voilà. Et les chevaux, eux, vous demandent rien, c'est-à-dire qu'ils sont là face à vous le matin, ils disent bon, alors qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ils sont en demande, mais en demande de d'écoute. Pas forcément demande de gestes.
Mais Barthabas, le petit Clément Marty, puisque tel est votre nom, avait besoin de liberté, vous nous l'avez dit tout à l'heure, il n'aimait pas trop les contraintes. Et ça veut dire que dans sa famille, de milieu plutôt bourgeois, le père architecte, la mère médecin, on attendait trop de vous?
Oh non, mais disons que, de toute façon, je me l'explique pas trop, hein. Ma passion des chevaux, il faudrait demander à un psychanalyste, mais je suis né à Courbevoie, donc c'est pas une région comme chacun sait, qui ne pullule pas de chevaux.
Non, pas,
pas du tout. Mais...
Pas de famille voilà, d'élevage de chevaux.
Non, mon père avait monté jeune, mais enfin, c'est pas. Non, mais voilà, ils m'ont toujours raconté que tout petit gamin, j'étais fasciné par les chevaux. Au bord de la route, il fallait que je m'arrête. Voilà, donc j'ai pas trop d'explications. Et d'ailleurs, je cherche pas trop à le savoir.
Vous aimez pas finalement creuser trop sur vous-même?
Non, c'est pas ça. C'est que j'ai cherché quel était le premier souvenir, parce que souvent on me demande ça la première fois. Mmh. Et j'en ai pas une précise. Si je devais vraiment remonter, d'ailleurs, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est que c'est la première leçon que m'ont peut-être donné les chevaux, gamin à 5 ans, c'est que pour pouvoir monter dessus, j'ai dû vaincre ma peur, parce que j'ai toujours été fasciné par les chevaux. Et la fascination, c'est quoi? C'est un mélange d'admiration et de crainte. Hein. Quand on est fasciné par quelqu'un ou par quelque chose, on en a en même temps peur et en même temps, il nous fascine. On l'admire. Et moi, le cheval, c'était un peu ça. Pour monter dessus, il a fallu quelque part que je vainque mon appréhension. Quoi. Et je pense que c'est la première leçon que les chevaux m'ont donnée, apprendre à vaincre la peur de l'autre, de l'inconnu. Quoi.
Peur et fascination sont intimement liés.
Bien sûr, bien
sûr. Et dans votre relation aux chevaux aussi.
Enfin, maintenant, maintenant que je sais comment ils fonctionnent, j'ai plus peur. Mais à l'origine, oui. La fascination, c'est de l'admiration et de la peur. Mmh.
Barthabas, vous avez voulu être entraîneur, je crois, quand vous étiez jeune. Hein.
Oui,
c'était votre rêve.
Ouais, quand j'ai compris qu'il fallait plus entraîner le propriétaire que le cheval, j'ai dit, c'est pas un métier pour moi.
Ouais. Et si vous aviez pas eu ce fameux accident de mobylette, là, je sais plus, vous aviez quoi, 17 ans, qui vous a cassé deux jambes, vous pensez que vous seriez devenu entraîneur?
Non, je pense que, voilà, comme je dis... J'en ai vu les limites, ça m'intéressait, le côtoyer les chevaux de course m'a beaucoup appris, comme côtoyer les chevaux en général, tous les milieux m'intéressent. Il y a une grande poésie dans le milieu des courses, je trouve, dans le milieu des courses du matin, ce qu'on appelle le matin, c'est les lades, les cavaliers d'entraînement, ceux qui s'occupent des chevaux. Quoi. Je dis souvent, on n'est pas propriétaire d'un cheval sur le papier, on est propriétaire du cheval dont on s'occupe. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé très jeune dans les courses, c'est-à-dire que les lades qui se voyaient attribuer deux ou trois chevaux, c'était leurs chevaux. Même si c'était pas leur casaque, évidemment, ils n'en étaient pas propriétaires l'après-midi, et pourtant c'était leurs chevaux quoi, le matin. Donc voilà, c'est un milieu assez poétique derrière le. C'est un milieu de sport, mais qui avait une certaine poésie, qui est peut-être un peu perdue maintenant.
Et c'est pour ça que ça attirait autant les peintres. Je pense à Degas,
oui,
je pense
après,
à Géricault.
La beauté du cheval de course, l'énergie, du mouvement, etc. Bien sûr. Oui.
Mais c'est cette poésie que vous avez voulu rendre aussi dans tous vos spectacles, non? En dehors, bien sûr, là on n'est plus dans le milieu des courses épiques, mais on est dans la poésie du cheval.
Moi, je suis plus dans la. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est la relation. Hein. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre. C'est ce que j'ai arrivé à construire. C'est en ça que voilà, pour moi, dresser un cheval, c'est créer un vocabulaire commun déjà entre l'homme et l'animal. Mmh. Ensuite, une grammaire pour pouvoir dire des choses et commencer à faire des enchaînements, et ensuite dire des poèmes ensemble. Mais voilà, mais ce sont des poèmes qui sont faits de silence, de soupirs, qui sont pas faits de mots, de paroles, quoi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'écriture m'a passionné d'une certaine manière, parce que je pense maintenant, je peux dire ça maintenant, que la vraie parole, c'est la parole écrite pour moi. C'est-à-dire, c'est la parole que l'on peut soupeser, affiner, ajuster, vraiment trouver le juste équilibre, exactement comme on ajuste, on affine, on peaufine un mouvement équestre. Donc, il y a une grande similitude entre l'écriture et le dressage du cheval.
Visage, Thierry Lyonnais.
Alors si vous voulez bien, Barthabas, on reviendra tout à l'heure sur ce lien entre les mots, l'écriture et le dressage. Mais j'aimerais qu'on revienne un instant sur votre parcours, sur votre vie. Moi, j'aimerais savoir quand et comment Clément Marty est devenu Barthabas. Ça s'est fait comment, ce changement de nom?
Ça s'est fait assez brutalement, en fait, parce que vers l'âge de 16-17 ans, enfin voilà, à peu près après mon accident d'ailleurs, mais c'est pas forcément lié directement, c'est-à-dire que tout d'un coup j'ai dit voilà, enfin si d'ailleurs c'est sûrement lié en fait, c'est-à-dire que je me suis dit voilà, ma vie, quelle qu'elle soit, j'ai pas envie de la passer dans une école, apprendre un métier entre guillemets, puis ensuite à attendre qu'on vous appelle, alors soit pour vous proposer un rôle si c'est dans le théâtre, soit à cheval si on est entraîneur, ou, voilà. Mais j'avais envie de vivre une aventure et d'apprendre sur le tas, quoi, d'apprendre en faisant, quoi. De là est venue l'idée d'aller travailler dans la rue d'abord, c'est-à-dire qui est la plus grande simplicité pour un acteur, quoi, c'est de se produire directement dans la rue, c'est-à-dire voilà, il n'y a pas de fil, il n'y a pas d'accessoires, on est en direct, quoi, dans la relation
public-artiste,
voilà. Et en plus avec un vrai jugement, puisque suffit pas seulement d'être intéressant, il faut aussi que la personne s'arrête et vous paye. Mm-hmm. Donc ça fait partie du jeu
faut
aussi.
Faut accrocher son attention.
Exactement, ça fait partie du jeu. Mm-hmm. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi pour après. Mm-hmm. C'est-à-dire que le propos ne doit pas changer, je dis toujours, mais il faut arriver à se faire comprendre. Mm-hmm. C'est-à-dire que dans le théâtre vivant, dans le spectacle vivant en général, il n'y a pas de poète maudit. Tu ne peux pas dire, moi je suis un génie, les gens n'ont rien compris, je ne suis pas de mon siècle. Tu peux le dire dans l'écriture, tu peux le dire dans la peinture, mais tu ne peux pas le dire dans le spectacle vivant. Donc cette notion-là, pour moi, est fondamentale. Quoi.
Mais là, au début, il n'y avait pas de chevaux. Et les chevaux sont arrivés quand ? Très vite ?
Oui, très vite, très vite. Parce que d'abord, c'était une troupe de théâtre, et ensuite, c'était le Cirque à Ligue. Donc voilà, j'ai acheté ce cheval et je suis parti sur les routes. Voilà, comme... D'ailleurs, c'est assez drôle parce que c'est le seul cheval que je n'ai pas nommé, puisque c'était son nom. Hidalgo, il s'appelait comme ça. Donc... Et c'est assez drôle parce qu'il y a évidemment un grand parallèle entre l'aventure don quichotesque et l'aventure zingaresque, on va dire. Parce que j'ai toujours été un peu poursuivi par ce personnage de Don Quichotte.
Mais Barthabas, on a eu l'impression qu'il y avait une tribu avec vous au début, qui avait ce désir de vivre en tribu. Le théâtre équestre Zingaro, qui est né en 85, c'était certes Barthabas, mais c'était toute une tribu avec. C'était votre désir, ça, de vivre en tribu ?
Oui, bien sûr, c'était même le premier. Hein. C'était voilà, partir sur les routes et vivre une aventure humaine avec des gens. Ça a été le théâtre emporté, ça a été le Cirque Caligre, qui était comme un espèce de groupe de rock, hein, puisque c'était cinq personnes de disciplines différentes, hein, puisqu'il y avait un jongleur, une trapéziste, un acrobate, un dresseur de rats, et moi avec les chevaux. Et puis j'en ai vu, ça a été passionnant, on était très jeunes, c'était célinien comme aventure, on va dire. Mais j'en ai vu aussi les limites, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux durer sur une vie entière, il faut partager aussi son art, sa discipline. Pas juste faire un spectacle et se marrer ensemble. C'est-à-dire quand vous avez un groupe de rock avec chaque musicien joue son instrument, ils font de la musique ensemble. Voilà, le cirque n'est qu'un assemblage de numéros, en fait. Donc, à part aller sur les routes et se marrer, on peut pas approfondir sur l'art. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée du théâtre équestre Zingaro, c'est de dire, voilà, je vais regrouper autour de moi des gens qui ont d'abord comme passion le cheval, dans toutes ses formes, ça peut être de la voltige au dressage, au travail en liberté, et la musique, bon, parce que la musique est un élément essentiel aussi dans mon travail. Et ensemble, on va essayer de vivre une aventure sur une vie, quoi. Alors après, ça dure ce que ça dure, mais voilà. Donc c'était ça le point de départ. En fait.
Mais c'est exigeant humainement, une vie de tribu, Barthabas. Et vous, on a l'impression, en vous lisant, que vous êtes plus à l'aise avec les chevaux qu'avec les hommes.
Bah, c'est ça mon problème. C'est que c'est plus humain, faut pas exagérer, ça porte aussi beaucoup, hein. C'est-à-dire que, voilà, surtout au début, hein, quand on est jeune, voilà, le côté être ensemble, on est plus fort ensemble que tout seul. Voilà, après, ça peut finir par peser parce que l'engagement n'est plus le même. Faut bien, moi, j'ai commencé avec des gens de ma génération, on était 5-6 potes à peu près du même âge, quoi, hein, grosso modo. Et maintenant, je me retrouve avec des gens au théâtre Zingaro qui sont plus jeunes que mes enfants, quoi. Donc le rapport a changé, ça aussi, ça joue. Donc c'est ça qui fait aussi que c'est plus tout à fait le même...
Mais dans votre livre, Barthabas, vous écrivez ceci. « Avec les chevaux, j'ai beaucoup travaillé pour que chacun de mes gestes, même les plus simples, proviennent d'un savoir-faire. Avec les hommes, je n'ai pas pris le temps d'apprendre. Je ne suis que maladresse. »
Oui, ça va
vous vous confessez.
Exact, oui, ben je le reconnais, oui. Ben, voilà, c'est des choses... Vous savez, c'est ce qui est compliqué avec... Vous dites, c'est une confession, bien sûr. Justement, c'est pour ça que l'écriture est intéressante. J'ai découvert ça, c'est que tu peux dire des choses, comment dire, surtout dans mon métier, j'ai souvent, et en plus, moi, le fait d'avoir avancé Barthabas comme ça, comme nom, c'est en même temps une manière de se mettre derrière, de se cacher derrière son nom, quoi. Et donc, tu es souvent dans mon rapport, on va dire, médiatique, entre guillemets, dès qu'on veut connaître un peu, on s'attend à ce que je dise des choses en tant que Barthabas, quoi. Et donc, c'est difficile d'aller contre le personnage que tu as créé, qui est forcément une partie de toi-même aussi.
Mais Barthabas, il y a quelque chose de barbare, presque.
Oui, bien sûr, oui. Mais d'ailleurs, je dis, il faut savoir rester barbare.
Et en fait, quand on vous lit et qu'on vous découvre, on sent un homme timide derrière.
Bah oui, c'est le propre, je pense que... C'est le propre de tous les bavards.
Et des barbares.
Et tous les barbares. Oui, je pense. C'est pour moi, le vrai timide n'est pas le gars qui est tout recroquevillé, habillé en noir et qui regarde ses chaussures. C'est pas vrai. Le vrai timide, c'est celui qui, justement, va parler fort, va essayer de se protéger derrière une espèce d'apparence, quoi.
Vous le dites tellement bien dans votre livre. De nature timide, il m'a fallu apprendre les mots de Barthabas pour me cacher derrière et assumer mon rôle. Mais les mots, les vrais, ceux qui s'écrivent doivent avoir de la noblesse et sur les lèvres, par leur sonorité, honorer l'animal. Et moi, je rajouterais, et l'homme, et les hommes, non ?
Enfin, en tout cas, l'animal-là, parce que comme ils n'ont pas accès à la parole ni à l'écriture, je le fais pour eux. Mais oui, bah, je pense que ce que... Voilà. Pour moi, l'écriture a été une révélation à ce niveau-là, c'est clair, quoi. Ça m'a permis de encore une fois, voilà, d'ajuster vraiment ma pensée sur ce que je n'ai pas le temps de faire et que je n'ai jamais eu besoin de faire, en fait, parce que assez bizarrement, dans la compagnie, je travaille avec des chevaux sur une période très longue, qui peut être de 20 ans parfois, et avec les gens aussi. Et bizarrement, on se côtoie, on se connaît tellement qu'on se parle très peu. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de côtoyer les chevaux qui fait qu'on devient de plus en plus animal, mais j'ai toujours cette anecdote en tête parce qu'elle m'avait beaucoup fait rigoler. C'était il y a une dizaine d'années. C'était la grande mode à l'époque des journalistes aimaient bien passer 24 heures avec. Alors, il y avait 24 heures avec Bartavaz. Donc, un journaliste est arrivé très tôt le matin à Aubervilliers jusqu'à après le spectacle le soir, quoi. Donc, il m'avait suivi plus ou moins tout le temps dans la journée. Et à la fin de la journée, il me dit, mais ce qui est quand même incroyable, c'est que vous avez travaillé toute la journée avec vos chevaux au milieu de la compagnie, le spectacle, et vous ne vous êtes pratiquement pas adressé la parole avec les gens de Zingaro. Et j'avais pas remarqué, et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et effectivement, on se connaît tellement qu'on n'a même pas besoin de se dire bonjour le matin, quoi. On se lève, attends, on habite pratiquement tous ensemble sur place dans, comme un petit village, quoi, d'Astérix, Zingaro. Donc, et un regard suffit, on se connaît tellement, un regard, se croise une attitude, il n'y a même pas besoin de s'adresser la parole, quoi.
Mais avec les chevaux aussi, non?
Avec les chevaux aussi, justement.
Vous êtes sur le cheval, vous ne lui parlez pas beaucoup?
Non, on parle avec les fesses, comme j'ai dit.
C'est plus facile de parler avec les fesses qu'avec les mots?
Bah, pour moi, oui. C'était...
Je dévalais dans les ravines, dans les prairies. Sauvage, ma vitesse, c'est l'infini, ma colère, c'est la tornade. Quelque chose dans le vent me dit qu'il est temps.
Tabas, j'aimerais qu'on parle du dressage, même si c'est évident que ce que vous vivez depuis 40 ans avec les chevaux, c'est d'un autre ordre que le dressage tel qu'on l'entend aujourd'hui. Vous écrivez ceci, dresser un cheval, c'est un travail de tous les jours, une quête de l'absolu qui refuse l'abstrait et puise sa matière dans la beauté du geste. Mais pour créer ce qui n'existe pas, il faut vivre dans l'insatisfaction permanente. Il faut savoir rester barbare. Alors expliquez-moi.
Ça c'est surtout dans le sens où il ne faut pas se complaire dans ce en quoi la société vous installe. Alors à mon niveau, ça va être par exemple artistiquement ne pas se contenter d'un spectacle qui fonctionne bien ou le machin, mais d'être toujours dans la recherche et toujours dans l'exigence vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses partenaires et vis-à-vis même de ses chevaux, dans la mesure où exigence, le mot paraît dur comme ça, mais il est surtout c'est une longue recherche. C'est-à-dire, l'exigence n'est pas forcément vouloir obtenir tout à tout prix, mais au contraire, vouloir obtenir ce qu'on est capable de donner, ce qui n'est pas la même chose, quoi. C'est-à-dire que l'exigence que vous allez avoir vis-à-vis d'un cheval qui commence à atteindre la trentaine ou la 25 ans, qui est très vieux pour un cheval, voilà, c'est comprendre l'animal, comprendre sa vieillesse physique, quoi. C'est-à-dire, ça m'a beaucoup appris, ça, hein, je veux dire, de savoir détendre un cheval qui devient comme du cristal, voilà, ça apprend des choses au-delà même de l'acte équestre, je veux dire, sur la vie, quoi. Et donc c'est ça que j'appelle bizarrement rester barbare, c'est aussi rester fidèle à son exigence, on va dire. Moi j'appellerais ça comme ça.
Mais dans quelle posture intérieure êtes-vous quand vous abordez un cheval? Vous avez dressé beaucoup de chevaux.
L'écoute.
Écoutez le cheval.
Écoutez, voilà. Pour moi, c'est pas chuchoter à l'oreille des chevaux, c'est au contraire écouter les chevaux. C'est-à-dire,
vous écoutez quoi?
Écouter un animal qui justement ne peut pas utiliser de mots pour parler, c'est l'écouter d'autant plus qu'il faut observer son attitude, observer son corps, son comportement, essayer de comprendre. Il faut bien savoir aussi que, et d'ailleurs ça transparaît un peu dans le livre, nous on est basé à Aubervilliers, on voyage dans le monde entier et on n'a pas de haras, on n'a pas de prés, donc on ne fait pas naître les chevaux. Donc les chevaux qui nous arrivent à des âges très différents et arrivent avec leur douleur, avec leur passé, avec leur histoire, quoi. Donc déjà, ça commence par ça, essayer de comprendre, d'écouter le cheval, qu'est-ce qu'il a vécu avant, quelles sont ses douleurs, parce qu'il y en a souvent beaucoup, il faut passer... Et donc il y a un long travail de psychanalyse des chevaux, d'essayer de comprendre de quoi ils sont faits, quoi. Et donc ça, c'est le premier travail d'écoute, quoi. Et puis après, écouter... Voilà, moi je dis souvent, monter à cheval pour moi, c'est des entretiens silencieux. C'est-à-dire qu'on est deux, on s'écoute. C'est-à-dire on s'écoute sans parole.
Hein. Il vous écoute, le cheval aussi?
Ah, bien sûr, bien sûr. Bah, oui, heureusement. On s'écoute réciproquement.
Ouais.
On
s'écoute, mais il vous écoute...
et on se parle réciproquement.
Ouais. Il vous écoute comment, le cheval? Vous êtes dessus, hein?
Voilà, ça passe par le corps, ça passe par les codes du corps. Et donc à travers la manière dont tu vas faire tes demandes. Un mouvement ou l'ordre, bon, il y a des choses qui se comprennent exactement comme vous entamez une conversation, ben voilà, la manière dont vous l'entamez, ben déjà, ça veut dire déjà quelque chose pour, voilà. Sauf que là, il n'y a pas de mots. Donc, la manière dont on va commencer la séance de travail, on va commencer à s'aborder, à aborder les allures, les demandes. Moi, je fais en fonction quand je sens qu'un cheval est prêt à donner un mouvement. Je commence à lui demander un mouvement, quoi. Mon seul, peut-être, parce que c'était même pas un maître, mais mon seul maître que j'ai eu dans la vie, j'étais très jeune, s'appelait Paul de Longchamp. Il disait une chose très belle, il disait « Le bon écuyer, c'est celui qui sait quand demander et quand récompenser. » Il rajoutait « L'idéal serait de pouvoir récompenser quand le cheval a eu seulement l'idée de vous donner le mouvement que vous lui demandez. » C'est-à-dire, vous ne le laissez même pas l'exécuter, vous le remerciez déjà. Donc il a donné l'intention de ce geste, donc aucun effort même physique, et il est déjà récompensé. Donc il vous le donnera avec d'autant plus de grâce et de bonne volonté et de générosité que ça ne lui a coûté aucun effort.
On est loin de la soumission, hein, parce qu'on associe dressage tort à soumission. Là, j'entends plus adhésion qu'adhésion, soumission.
Oui, éducation aussi. On s'éduque réciproquement. Et je dis bien réciproquement, parce que le cheval m'éduque aussi. C'est ce qu'on disait au début de notre conversation, quoi. Le cheval m'a appris à vivre, tout simplement, déjà, quoi, à me comporter.
Et on peut utiliser le mot communion. Il y a une communion.
Bien sûr, évidemment qu'il y a une communion. C'est-à-dire que c'est la notion un peu du centaure qui fait rêver les gens. C'est-à-dire qu'effectivement, bien sûr, on peut, quand je disais, on construit un vocabulaire. Alors, au départ, on part de mouvements assez physiques. C'est-à-dire les jambes, les mains, le bassin, etc. Et puis après, on affine. Après, les jambes, c'est un effleurement de mollets à peine. Après, ça va être un petit mouvement de doigts dans les mains. Et puis, quelques grammes sur une fesse ou l'autre. Et puis, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que la pensée. C'est-à-dire, c'est exactement comme un enfant qui apprend à marcher. Au début, il se concentre, le pied gauche, puis après, j'avance le pied droit. Ouh là, je vais tomber, je mets mon poids de tel côté, etc. Et puis, maintenant, quand vous marchez, vous pensez pas, j'avance le pied gauche, vous marchez. Et ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que maintenant, quand un cheval est vraiment arrivé haut dans le dressage, le cavalier pense un mouvement et le cheval l'exécute. Va répondre à cette demande, d'ailleurs. Il va répondre d'une manière ou d'une autre, voilà. Mais la demande, moi-même, je ne sais même plus ce que j'utilise dans mon corps pour communiquer avec mes chevaux. Enfin, pas les chevaux en général, je dis bien, les chevaux avec qui vous avez construit ce dialogue.
D'où l'intimité que vous avez avec ces chevaux, avec certains de ces chevaux.
D'abord, il faut bien comprendre que ce sont des heures, des milliers d'heures, hein. Je raconte Horizon, il arrive à l'âge de 5 ans, il a pris sa retraite à 30 ans, hein. Donc voilà, c'est 25 années tous les matins, c'est pas rien, quoi.
Barthavas, vous avez utilisé le mot de centaure là, il y a un instant. C'est vrai que parfois on vous traite de centaure, on vous donne ce titre-là. Est-ce qu'il y a eu des moments dans certains de vos spectacles, ou peut-être en travaillant le matin, où vous avez senti une union total avec votre cheval?
Oui, bah bien sûr, heureusement.
Non, mais c'est là, oui, ça arrive
bien
souvent,
sûr, bien sûr.
Ou c'est plutôt exceptionnel?
Non, ça arrive parce que voilà, on arrive à se concentrer pour se mettre un état d'écoute, et puis tout d'un coup, alors après, vraiment les petits moments de grâce, mais ça, tout artiste, je pense, dira ça, s'il est vraiment honnête avec lui-même. Les vrais mouvements de grâce où tout d'un coup, on a l'impression que la perfection n'existe pas, mais que tout d'un coup, tout a été léger, gracieux, etc. C'est des fractions de secondes et qui ne sont pas forcément en public.
Et ça, vous l'avez senti?
Ah, bien sûr.
Avec quel cheval en particulier? Avec
plusieurs de mes chevaux. Parfois, une fois dans le travail, tout d'un coup, un mouvement, on dit, tiens, là, il y avait quelque chose de magique, quoi.
Et là, qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce qui vous fait ressentir que
je pense que c'est de l'ordre de l'indicible. C'est comme si vous me disiez un musicien va dire tout d'un coup là au moment de jouer là j'ai senti que vraiment j'étais et c'est pas forcément dans un rapport avec le public. Mmh. Souvent ça peut être en public mais c'est assez rare. Mmh. Comme on est professionnel entre guillemets, on est toujours acceptable ou montrable ou bon si on veut en public. Mais ce petit moment-là où vraiment on a l'impression d'être ailleurs, ça peut arriver n'importe quand et ça peut arriver en public.
Mais parfois, plus rarement que lorsque vous travaillez.
Moi, ça peut m'arriver parce que de la manière dont je travaille, je suis très. Je vais raconter une anecdote aussi toute bête parce que c'est des fois plus parlant pour les gens. Encore une fois, c'est un journaliste un jour qui me pose une question. Il me dit pourquoi vous fermez toujours les yeux à cheval? En spectacle. Et je ne m'en rendais pas compte. Qu'effectivement, j'ai toujours les paupières. Si ce n'est pas les yeux complètement baissés, en tout cas les paupières. Je rentre dans le cheval. Je ne suis pas dans un rapport de. Comment dire,
de lien avec les spectateurs.
Voilà, de lien de paraître, quoi. Voilà, je rentre dans mon animal, quoi. Et d'ailleurs, souvent, les premiers qui arrivaient à Zingaro, les jeunes qui avaient demandé comment il faut se tenir. J'ai dit non, mais ne te pose pas la question. Sois avec ton cheval et c'est tout, quoi. Ne te pose pas la question s'il faut. Non, ne souris pas au public parce que voilà, tu n'as pas à avoir une apparence. Et d'ailleurs, je leur faisais souvent l'anecdote de dire, regardez les musiciens, vous verrez que les grands musiciens quand ils jouent, ils sont leur musique. C'est-à-dire, alors ça va, il y en a qui sont mutiques complètement, blancs, qui ne bougent pas, il y en a d'autres par contre qui sont grimaçants,
ils ferment les yeux,
les yeux. Et tout d'un coup, tu t'appelles, et là ils ne jouent pas, ils ne sont pas en train de jouer un rôle, ils sont tellement concentrés dans leur musique qu'ils sont leur musique. Et c'est cet état-là, moi, que je recherche à cheval, quoi. C'est d'être mon cheval, quoi. D'être vraiment dedans, quoi.
Et quand vous utilisez, il y a un chapitre qui s'appelle Extase. C'est ça? C'est ça que vous recherchez? C'est ça l'extase pour vous, Bartabas?
Oui, forcément, oui. C'est vrai que c'est un degré. C'est très difficile, hein, vous savez, d'en parler comme ça, parce que c'est peut paraître d'abord pour un peu fou.
Non, parce que tous les vrais artistes recherchent ça, quelque part. Vous parlez des musiciens.
Oui, mais là, c'est particulier, parce que là, vous êtes un animal, vous êtes avec un être vivant. Ouais. Hein, donc, dans cette relation-là, c'est très difficile. Moi, j'ai beaucoup de problèmes. Par exemple, moi, j'aime bien les gens qui aiment bien les animaux, effectivement, mais ça se passe à un autre niveau. C'est-à-dire que c'est pas un niveau juste d'aimer un animal comme on aimerait un chat, un chien, qui est un animal quotidien. Non, c'est vraiment partagé dans le travail. J'insiste sur cette relation-là. C'est pas la contemplation béate de l'animal. C'est par le travail, par la communion dans le travail, donc dans l'action, qu'on atteint un niveau d'échange que encore aujourd'hui tu ne peux pas expliquer. Ça a l'air bête, tu dis oui bon d'accord, mais moi je prétends qu'on se dit plus de choses parfois, hein, c'est pas une règle générale, avec un cheval qu'avec un être humain. Donc une fois que tu as dit ça, c'est quand même problématique un petit peu, parce que tu dis voilà, bon, si l'homme a été doué de la parole, normalement c'est pour aller plus loin dans le langage. Et moi je fais partie des gens qui pensent que souvent le langage parler, en tout cas, pas l'écriture, mais le langage parlé, et c'est une façon de se protéger derrière les mots, quoi. C'est-à-dire que moi, souvent, quand des gens viennent me demander quelque chose, je les regarde bien, je les observe, et au bout d'un moment, je me rends compte que leur corps dit le contraire de ce qu'ils sont en train de me dire par les mots. Ils me font une demande, je dis, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Parce que tu ressens exactement le contraire, presque.
Mais pourtant, les mots, et c'est aussi mon métier, est de partager.
Oui,
permettre
c'est pour ça que
de partager et de trouver peut-être l'expression de l'indicible ou de ce qui nous habite au plus intime.
C'est pour ça que c'est assez paradoxal. C'est pour ça que ça me pose un réel problème, quoi. Parce que effectivement, vous dites ça, les gens ils disent mais attends, il y a un truc qui va pas, quoi. Je veux dire, tu vois, mais voilà, il faut l'avoir ressenti. C'est pas explicable. Il faut l'avoir ressenti. C'est vrai qu'il y a un niveau je vais assez loin, hein, même philosophiquement. Hein. C'est-à-dire que alors là, c'est un peu mon délire, quoi. Mais quand tu travailles le matin, ton esprit travaille aussi en même temps que quand tu es à cheval, quoi.
Vous, donc, tous les matins, hein, vous travaillez
tous les matins.
Vous montez tous les matins.
Et donc, j'en suis même au stade où maintenant, avec le recul, je me dis, mais en fait, ce que j'essaye d'observer à travers mon travail à cheval, c'est peut-être le mouvement qu'a eu l'humain vers l'humanité, quoi. C'est le mouvement même de l'humain, de l'animal devenant humain, quoi. Mmh. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que je m'aperçois que par l'apprentissage, par l'écoute, par le faire, encore une fois, hein, pas par le. C'est pas un chien ou un chat qui est un animal domestique qui va chercher à vous singer ou alors on va dire il a des attitudes humaines. Mmh. Non, mais ça, c'est pas ça qui m'intéresse, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment l'animal, par le travail, par la réflexion, parce qu'il faut savoir quand vous travaillez un cheval, c'est une heure ou deux par jour, si vous le ressortez le soir, mais enfin, il passe quand même 22 heures dans sa cellule, on pourrait dire comme un moine, hein. Mmh. Donc, et moi, je prétends qu'il travaille pendant cela. C'est-à-dire, comme le cavalier, d'ailleurs, il pense à sa séance qu'il a eue et la prochaine qu'il va avoir le lendemain.
Vous pensez qu'il relit ce que vous avez fait ensemble?
Ah, mais je ne pense pas, j'en suis certain. Mm-hmm. C'est-à-dire que souvent, on s'aperçoit que d'un jour à l'autre, le cheval a appris. Parce qu'il a réfléchi à ce qu'il a fait. Quoi.
En restant dans son box.
Voilà. Et donc, ça, c'est pour moi, peut-être, quand j'essaye de réfléchir à dire comment. Parce que, bon, moi, je prétends. Je ne suis pas croyant au sens où je pense que l'homme a besoin de Dieu, puisqu'il l'a inventé. Donc, il en a besoin. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure, si vous voulez.
Ouais, volontiers.
Mais ce qui est intéressant, c'est que je voudrais saisir, essayer de commencer à peut-être apercevoir le début de l'idée de comment l'animal est devenu humain. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que chez nous, c'est pas juste expliquer, on s'est mis debout, le cerveau, je sais pas la position.
Voilà, mais dans
il y a eu un apprentissage. Il y a eu forcément un apprentissage très long qui s'est fait. Par exemple, moi, je pense que la fascination pour la violence de l'humain, parce que l'humain, on dit ce qu'on veut, a une fascination pour la violence. Elle vient forcément du fait qu'il a été un animal qui s'est fait agresser, quoi. C'est-à-dire que évidemment,
qui essayait de survivre de l'agression.
Oui, avec des capacités très très faibles, parce que il court pas vite, il vole pas, il nage pas sous l'eau, donc il devait être une proie. L'être humain devait être une proie facile. Donc il devait être fasciné par le lion ou le félin qui le regardait avant de le dévorer, quoi. Je veux dire, moi j'en suis sûr de ça, quoi.
Et donc on a ça en nous.
Et on a encore ça en nous, voilà. C'est ça qui m'intéresse, c'est comment. Et parfois, moi, j'ai vu, par exemple, je raconte Horizon, qui est un cheval que j'ai eu pendant 25 ans, qui faisait ce qu'on appelle un air d'école, qui est un mouvement qui est une espèce de trot sur place suspendu, qui demande beaucoup d'énergie, qui est un truc dans le dressage classique que l'on fait une trentaine de battues. Lui pouvait le faire pendant 2 ou 3 minutes, quoi, tellement il avait pris du plaisir à le faire. Et ben, je me suis aperçu qu'à la fin de sa vie, il faisait un piaffé rempli de douceur et de souplesse qui parlait beaucoup plus que le piaffé de sa jeunesse qui était plein d'énergie débordante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cheval, tout vieux qu'il était, tout courbaturé qu'il était, tout raide qu'il était, arrivait encore à faire ce mouvement-là avec une aisance incroyable, car il avait compris qu'il n'utilisait que l'énergie dont il avait besoin pour faire ce mouvement-là. Et ça, c'est la définition du yogi, quoi.
Et c'est ce que vous faites maintenant, Barthabas. Vous, à un peu plus de 60 ans aujourd'hui, vous utilisez moins d'énergie qu'avant pour monter. Vous êtes différent dans votre relation avec les chevaux.
Oui, parce que ce qui m'intéresse...
À la lumière, c'est ce que vous venez de dire de ce cheval.
Oui, bien sûr, parce que d'abord, c'est beaucoup plus l'écoute. Et moi, maintenant, la recherche m'intéresse plus que le résultat. C'est-à-dire, chercher à cheval, ça me passionne plus que de présenter devant un public, ça c'est clair. Bon, alors ça pose un problème, parce qu'il faut quand même que je gagne ma vie. Mais voilà, mais d'ailleurs, le dernier spectacle que je vais faire à la fin de cette année, ça s'appellera Entretien silencieux. Ce sera un solo sans musique. C'est juste le travail, un homme et un cheval qui s'écoutent.
De plus en plus dans
les cuirs. Va juste sonoriser le cheval pour qu'on entende bien sa respiration, ses soupirs, justement. Mais voilà, donc moi, à l'âge que j'ai, d'abord, ma première préoccupation, moi, c'est... Alors, moi, je nage beaucoup. Là, j'allais nager ce matin avant de monter à cheval. Mais c'est pas du tout parce que je veux rester fin et élégant. C'est parce que mon corps a besoin de pouvoir recevoir le cheval. Je le définis comme ça, quoi. C'est-à-dire que le cheval est quand même un animal... il se caractérise par la douceur de sa violence. Mais enfin, c'est quand même un animal c'est quand même un être de 500 kilos qui a des réactions. Voilà, donc ton corps doit pouvoir le recevoir, quoi. Sinon, le cheval ne comprendrait pas si ton corps était raide ou machin et que donc il pouvait pas répondre à accompagner le mouvement du cheval. Voilà, c'est comme un pianiste qui jouerait avec des moufles.
Nicolas, j'aimerais qu'on parle maintenant de la personnalité des chevaux. Parce que en lisant votre livre, D'un cheval l'autre, il y a certes à la fin toute une liste de noms de chevaux avec lesquels vous avez vécu. Elle est impressionnante, hein, ça s'appelle La caravane de mes nuits. Alors il y a tous les noms, Hakim, Angelo, Antonette, Apollo, Ares, Aruza, et puis ça va loin, ça se termine avec Pazingaro, c'est pas le dernier, c'est Zurbaran, le dernier. Donc vous avez été en lien, vous avez vécu intimement avec beaucoup, beaucoup de chevaux. Moi j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre, chacun de ces chevaux avait une personnalité propre. Vraiment une personnalité.
Oui, comme les humains.
C'est vraiment exactement comme les humains.
Pareil, bien sûr, oui. Voilà, cherche. Bien sûr, d'abord, moi, c'est ce que j'ai toujours cherché. Hein, aussi bien d'ailleurs chez les humains que chez les chevaux dans la compagnie. C'est d'avoir une diversité de caractère, voilà, d'énergie, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Et après, c'est pour ça que j'ai toujours été intéressé par toutes les races de chevaux. Je dis toujours, tous les chevaux sont intéressants. Il suffit de savoir les regarder et voir en quoi mettre en valeur ce en quoi ils sont, ils parlent, quoi.
C'est-à-dire, quand vous allez acheter un cheval, et ça, vous l'avez fait des centaines
déjà,
de fois.
Déjà, c'est souvent les chevaux qui me choisissent. Quand je dis, c'est pas moi qui les choisis parce que c'est le hasard de la vie. Alors, au début, d'ailleurs, ce livre donne bien le reflet, hein. C'est-à-dire, la vie de Zingaro, au départ, était beaucoup plus rocambolesque, on va dire, parce qu'évidemment on n'avait pas de moyens, on n'avait rien, donc c'est des chevaux sortis de l'abattoir ou des choses comme ça. Et puis avec le temps, on a eu un peu plus de moyens, mais ça n'a rien changé. C'est-à-dire, ça m'a donné une philosophie de travail. Le cheval parfait n'existe pas, comme l'être humain parfait n'existe pas. Donc ça sert à rien de le rechercher, ça sert à rien de le payer cher. Il faut laisser venir à soi le cheval qui se présente. Alors qu'au début, c'était des chevaux qu'on m'offrait. Enfin, maintenant, d'ailleurs, c'est plus des chevaux qu'on m'offre. Tsar, le dernier cheval que je travaille, c'est un cheval qui est estropié, c'est un monstre d'1m92 au garrot et qui a un défaut physique, mais qui a une grâce incroyable, qui a une personnalité incroyable. Et je me suis mis dans la tête de dire, voilà, comment on peut arriver à faire, à muscler, mettre en forme un cheval comme ça qui a un vrai problème de...
C'est ça, vous n'avez pas peur de vivre avec des chevaux cabossés, Barthabas? Vous prenez pas que des
gens,
purs
sangs. Tout le monde est cabossé. Encore une fois, les chevaux arrivent avec leur vie, donc avec tout ce qu'ils, avec leur douleur, avec tout ce qu'ils ont vécu avant. Donc ils sont cabossés comme nous, comme les gens. Les gens qui arrivent à Zingaro pourraient dire la même chose.
Ils sont cabossés aussi.
Des 40 personnes qui travaillent à Zingaro, qui vivent donc en caravane autour du théâtre, aucun n'est de famille de cirque ni de famille de voyageurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont choisi de vivre ce style de vie par choix et pas par héritage culturel. Donc forcément, ce qui les relie tous, ils ont peut-être chacun leur raison différente d'être là. Certains travaillent avec moi, d'autres avec leur cheval, d'autres la vie du voyage, etc., etc. Et chacun a peut-être sa raison, mais ce qui les unit peut-être, c'est justement ce rejet de pouvoir vivre dans la société entre guillemets normale. Donc il y a forcément un rejet de quelque part, une douleur. Sans faire de la psychanalyse à 50 centimes, je veux dire, voilà, il y a quand même un refus qui vient certainement de l'enfance, de gens, voilà, de vivre autrement. Et donc ça, c'est pour moi, c'est des signes. Et dans les chevaux, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, j'aime bien effectivement les chevaux qui arrivent avec des horizons très différents. Et d'ailleurs, au niveau anecdote, c'est toujours drôle. Comme la manière dont je les rencontre est presque toujours rocambolesque, en fait.
C'est intéressant parce que ce que vous venez de dire à l'instant, vous le dites très bien dans votre livre, avec une phrase comme celle-ci. Avec mes chevaux, dans la splendeur de mon destin, je pensais avoir embrassé une vocation qui tournait le dos à ma famille et mettait une distance définitive avec mon père. Je me rends compte aujourd'hui, alors qu'il n'est plus, qu'architecte et dresseur procèdent de la même filiation.
J'ai vu autour de la cathédrale où je compare le dressage du Caravage à l'édification d'une cathédrale.
Oui, mais vous avez tourné le dos au milieu bourgeois de votre famille.
Bien sûr. Ce que je vous disais au départ, c'était partir sur les routes, vivre une aventure, quoi, différente. Et puis d'apprendre, vous savez, Zingaro n'a jamais été un projet, hein. C'était pas un dossier avec, voilà, je vais faire un théâtre équestre avec une compagnie moitié homme, moitié chevaux. Non, c'est des jeunes qui ont décidé de prendre la route comme ça, qui étaient passionnés de chevaux. Et chaque spectacle a ouvert la porte du suivant et c'est devenu ce que c'est devenu. Mais c'était pas un calcul au départ. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que son public aussi s'est formé en même temps que lui. C'est-à-dire que moi, au début, tu m'aurais dit, Barthabas, tu vas chorégraphier le Sacre du Printemps à Symphonie des Psaumes avec des chevaux. J'aurais dit, non, c'est pas possible, quoi. Ou tu m'aurais dit, tu vas faire un spectacle où il n'y a carrément pas d'humains, tous les chevaux seront en liberté, comme on vient de faire avec Sanima. Il y a 30 ans, j'aurais dit, non, c'est impossible. Mais spectacle après spectacle, les portes se sont ouvertes, notre savoir s'est enrichi et l'univers s'est agrandi.
D'accord. Mais ce que je trouve intéressant dans cette relecture de votre histoire avec les chevaux et donc de votre histoire personnelle, c'est que vous avez tourné le dos à votre père architecte et vous découvrez que dans votre vie de dresseur, entre guillemets, Il y a un parallèle avec l'architecture. Oui. Pas n'importe quelle architecture, l'architecture de cathédrale. Bah, vous pouvez m'expliquer ça?
Bah, parce que, encore une fois, dresser un cheval, c'est bâtir une cathédrale. C'est-à-dire qu'il faut faire les fondations, il faut commencer par les bases. Voilà, et petit à petit, tu construis. Si tu vas trop vite à mettre le toit avant les murs, tu as peut-être un résultat immédiat, mais ça va vite se casser la gueule et se limiter. Mais ça, c'est vrai dans toutes les disciplines artistiques. C'est-à-dire, si tu respectes les bases et le pourquoi, ce matin, j'étais en discussion avec un comédien connu qui me disait, on me pose souvent la relation entre les chevaux et la comédie. Il dit, au début, je savais pas, je disais, c'est maintenant. Et maintenant, je me rends compte qu'en fait, même le jeu et la comédie, si c'est pas exactement analysé pourquoi tu fais rire, comment tu as construit ton truc, tu le fais une ou deux fois comme ça sur ton talent, et petit à petit, tu te rends compte que tu ne fais plus rire, tu n'arrives pas à savoir pourquoi, quoi. Mmh. Parce que voilà, parce que c'est pas construit, c'est pas bâti sur des choses, sur un vrai acquis. On va dire un vrai acquis, mais dans toutes les disciplines, c'est ça. Vous apprenez un instrument, si vous allez trop vite, vous bâclez des bases, et ben, à un moment, vous allez être limité. Mmh. Et ben, dans la construction du cheval, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que voilà, tu crées un langage, faut pas oublier de mots, puis après, tu crées une grammaire. Donc, faut savoir construire ses phrases, il faut savoir, les conjuguer, etc. Et puis, petit à petit, tu peux arriver à dire des choses, quoi. Mais si tu dis tout de suite un poème alors que tu maîtrises pas encore la langue, et ben, très vite, tu vas t'apercevoir que t'es assez limité, quoi.
Alors, revenons, là, vous me tendez la perche, Bartabas, au lien entre mots et dressage. Entre cette expérience que vous avez maintenant de 40 ans de lien avec les animaux et puis cette expérience nouvelle d'écrire. Et franchement, j'ai été impressionné par votre style, par votre écriture. C'est votre premier livre. Il y a un style, il y a un sens des mots.
Disons que j'ai eu tellement de respect pour la littérature que j'ai attendu d'avoir 60 balais pour écrire un livre déjà.
Vous aviez peur en fait de vous mettre à écrire d'abord, il y a des gens qui écrivent tellement bien que pourquoi
écrire? Oui, puis j'avais pas vraiment le temps et puis voilà, puis j'ai trop de respect pour ça. Je disais en rigolant, je me mettrais à écrire le jour où je pourrais plus monter à cheval. Bon, je n'ai pas tout à fait attendu ce moment-là. Ouais. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un moment où... Mais c'est une vraie exigence. C'est-à-dire que j'ai dû... c'est un travail... Bon, comme chacun sait, l'écriture, c'est un travail très solitaire. Mmh. Hein. Donc, j'ai dû me retirer plusieurs fois de Zingaro pour vraiment mettre de la distance aussi.
Ouais, mais vous
entre
êtes solitaire.
Moi et les chevaux du quotidien.
Il y a quelque chose de solitaire chez vous, non?
Oui,
vous
c'est vrai. J'ai toujours quelque chose de solitaire alors que je vis en compagnie, ce qui est un comble. Mais là, c'est pas pareil. C'est-à-dire, c'était aussi mettre de la distance entre les chevaux que je côtoie tous les matins qui sont encore là et ceux qui ne sont plus là. Les mettre un peu à égalité. Parce que le projet, c'était vraiment d'écrire à la première personne et au présent. Mmh. C'est-à-dire de faire revivre les sentiments, vraiment faire revivre le sentiment d'une caresse, d'aller rechercher qu'est-ce qu'ils m'ont laissé ? Qu'est-ce que chaque cheval m'a laissé ? Pas juste dans l'anecdote de ce qu'ils ont fait. Le but n'est pas de raconter ce qu'ils ont fait tellement, mais ce qu'ils m'ont laissé en moi, donc en quoi ils m'ont construit. Quoi.
Vous écrivez ceci, je me méfie des mots, tantôt taiseux, tantôt gueulards quand je m'emporte. Ils n'ont pour moi pas plus d'importance qu'un claquement de porte. Ils me font peur. Souvent, ils manquent de pudeur. Péremptoire, ils occultent le sentiment profond. Un discours, aussi fin soit-il, n'aura jamais la délicatesse d'une caresse, ni la profondeur d'un regard. Pourtant, les mots, vous les aimez, les mots, vous les utilisez.
Les mots écrits.
C'est plus facile pour vous d'écrire que de dire.
Moi, j'ai découvert ça. Encore une fois, c'est une découverte. Ça n'a pas l'air comme ça, mais à 60 ans, il était temps. Mais pour moi, la vraie parole est la parole écrite. C'est pas vrai. C'est-à-dire, je suis à l'aise, je me protège. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote qui est pour un travail sur un film d'archives. J'ai regardé plein de vieux interviews d'il y a 35 ans. Là. Et je me suis aperçu que sur certains thèmes, au mot près, je dis bien, je dis la même chose il y a 35 ans et encore maintenant, à la presse ou dans un interview rapide comme ça, où il faut vite dire quelque chose, se protéger, quoi. C'est-à-dire que je me suis construit une carapace.
C'est protégé.
Que j'utilise pour me protéger. Mais c'est vrai que, pour ça que moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec les médias. Je vais assez peu. Parce qu'il y a peu d'endroits où tu es à l'aise pour vraiment parler. Ici, on est à l'aise. D'abord, on est dans un lieu fabuleux qui pousse à la confidence et à la parole. Mais je veux dire, souvent, c'est pas le cas. Tu es face à quelqu'un qui te lance une question métaphysique. Et si tu as le malheur de te lancer dans une explication, il regarde sa montre, il fait des grands gestes, il a son oreillette qui lui dit, il va falloir couper. Donc, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est juste pas possible. Ou alors, faut se protéger. Faut se construire un petit discours.
Mais là, vous êtes pas protégé. Dans ce livre, vous êtes
non,
pas protégé.
Parce que dans l'écriture.
Là, vous vous livrez, là.
Dans l'écriture, par contre, c'est pas la même histoire. Tu prends le temps, tu peux peser les mots, tu peux dire exactement ce que tu as envie de dire, et donner une vraie... Et puis voilà, pour moi, c'est assez proche de la construction d'un spectacle. D'ailleurs, C'est assez drôle, c'est, j'ai construit...
On rejoint l'architecture, là.
Exactement.
Construction d'un spectacle, construction
Exactement.
Dans la relation avec un cheval et construction
et
dans
moi,
l'écriture.
Mes spectacles n'ont pas d'histoire, je dis toujours. Hein. Ce sont des moments, des tableaux, et comme un puzzle que j'assemble au dernier moment. Je travaille sur un thème, il y a des visions, des tableaux qu'on construit, et ensuite je les mets en place comme un puzzle. Mmh. Et le livre, je l'ai un peu conçu comme ça. C'est-à-dire que j'ai décidé de revenir dans le passé de manière systématique, en maintenant l'historique, c'est-à-dire du premier cheval jusqu'au dernier, et j'ai traité cheval par cheval. Alors, selon les chevaux, ils ont plus ou moins de chapitres. Zingaro, qui était le cheval fondateur,
on va dire,
il a 8 chapitres. Bon, bah, je les ai écrits d'abord, jusqu'à sa mort, voire après même encore. Mm-hmm. Je les ai écrits, ensuite j'ai passé au suivant. Et quand j'ai eu fini, j'ai fait comme un puzzle pour bien qu'on comprenne la notion de temps, puisque là, on parle de chaque cheval... croise ta vie pendant 10, 15, 20 ans. Donc j'ai décidé d'intercroiser les chapitres, c'est-à-dire en suivant la vraie chronologie du temps. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a la rencontre, par exemple, avec Zingaro, on le retrouve 10 ans plus tard, tel chapitre plus loin, puis plus tard. Puis...
Alors et justement, excusez-moi, Bartha, mais Zingaro, parmi tous ces chevaux, et la liste est longue, on a l'impression que vous avez eu un lien particulier avec lui. C'est vrai ou c'est une légende ou quoi?
C'est-à-dire que c'est quand même le cheval qui m'a fait exister parmi les hommes, dans le sens où il m'a rendu entre guillemets célèbre, le théâtre Zingaro, quoi.
Ouais.
Pas seulement parce qu'il a donné son nom.
Mais
parce
il était particulier, ce cheval.
Surtout que le rapport était très particulier, parce que c'était un rapport à pied, hein, parce que c'est un cheval que je n'ai jamais monté, sauf une fois. Donc c'était un rapport très particulier, c'est la première fois qu'on voyait ça, quoi. Un cheval qui, un rapport dominé-dominant, en inversant tout le temps les rôles, quoi,
qui vous dominait?
Parfois c'est lui qui me dominait, parfois c'était moi qui jouais à le dominer, enfin voilà, il y avait ce rôle-là. De cheval taureau qui te charge, qui te mord, puis ensuite qui se soumet comme ça. Enfin bon, tout ça a été fait comme une espèce d'improvisation tous les soirs. Attention, hein, c'était pas un numéro de cirque écrit.
Oui, mais quand vous dites que tous les chevaux ont une personnalité, on peut pas aimer tout le monde. Et parmi nos amis, on a des amis qu'on aime plus. Et parmi tous ces chevaux, quels sont, allez, les deux qui vous ont le plus apporté, marqué? Vous voulez pas le dire?
C'est pas ça, je peux pas répondre à cette question parce que chacun m'a apporté des choses différentes.
Évidemment,
Zingaro, c'est le plus connu, donc on va dire c'est qui t'a marqué le plus. Mais ça veut pas forcément dire que pour moi, ça dépend des étapes de ta vie aussi. Il y en a un, par exemple, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait l'araignée, j'en parle un peu, il n'a qu'un chapitre dans Chimère, et je dis, c'est un cheval que je n'ai jamais tutoyé. C'est-à-dire qu'en fait, il est tout le temps respect. Oui, mais il est tout le temps resté très distant. Voilà.
C'était pas par respect, c'était un vouvoiement.
Et ça m'a beaucoup appris, ça aussi. C'est-à-dire que c'est aussi sa liberté au cheval de garder sa distance. Comme toi, tu as ta liberté de garder ta distance vis-à-vis de certaines personnes ou pas. Ça, par exemple, ça m'a beaucoup appris. Alors que je pourrais dire, c'était pas un échec pour moi. C'est pas un échec. C'est un cheval, je ne l'ai jamais tutoyé. Voilà. Et il y en a d'autres que j'ai tutoyé, qui se sont laissés tutoyer, quoi.
Visage. RCF.
Bartabas, le temps passe trop vite, il y a trop de sujets que j'aimerais aborder avec vous. On l'a un tout petit peu évoqué tout à l'heure, c'est la place de Dieu, vous avez dit ben, l'homme a inventé Dieu. On a l'impression que le sacré tient une grande place dans vos spectacles.
Bien sûr, oui.
Et dans votre vie.
Moi je dirais le rituel surtout. Et le rituel dans tous les sens du terme, le rituel dans le spectacle,
bon, les
ça, c'est
rituels,
assez
alors.
Évident. Les rituels. Voilà, mais les rituels...
Tibétains, coréens,
monter
chrétiens.
À cheval tous les matins est un rituel, hein. Aussi. C'est la manière dont tu l'approches, tu l'abordes, tout est rituel. C'est-à-dire d'installer je pense que c'est peut-être comme ça que l'animal est devenu l'humain, par le rituel. C'est-à-dire que tout d'un coup, il s'est installé un rituel. Même si les animaux ont des rituels aussi à l'état naturel, à l'état sauvage, entre guillemets.
Et ces rituels nous aident à vivre, nous, ou ils nous ouvrent à une dimension de transcendance?
Moi, si vous voulez.
Vous, alors, vous, personnellement.
Mon analyse est assez, simple, on va dire, en même temps peut-être simpliste, c'est que je pense qu'il différencie fondamentalement l'homme de l'animal, c'est la conscience et la représentation de la mort et de la souffrance. Ça, il n'y a qu'à ma connaissance, on apprend beaucoup de choses sur les animaux en ce moment, ça évolue très très vite, mais au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance, c'est ce qui distingue l'homme de l'animal.
Les chevaux ne sentent pas qu'ils vont mourir?
Les animaux peuvent sentir que c'est la fin. Alors, je suis pas assez spécialiste, mais on dit, par exemple, les éléphants, à l'état sauvage, je parle d'animaux à l'état sauvage, s'écartent pour mourir dans un endroit, le cimetière des éléphants. Mais ça veut pas dire que toute leur vie, ils ont eu l'angoisse et la représentation de la mort. Il n'y a que l'humain qui a ce problème-là.
Bon, c'est pas vraiment.
Ah ben moi, je suis parce que tu le ressens dans. Moi, je pense que l'homme a inventé l'art, a inventé les religions, a inventé Dieu pour répondre à cette question. C'est évident. Il en a besoin. C'est-à-dire que voilà, il y a cette conscience-là qui est le travail. Quoi. Alors, on peut appeler ça l'intelligence ou pas. J'en sais rien. Ça n'a rien à voir avec le ressenti, ça n'a rien à voir avec le... Voilà, c'est de...
Ça, mais, c'est votre croyance, je dirais.
Oui,
c'est
mais en même croyance. Temps, je pense que le problème de l'homme, c'est qu'il a... D'ailleurs, c'est pour ça que je commence ce livre par un extrait de la Genèse.
Voilà, ouais. Hein, vous ouvrez par la Genèse.
Non, mais qui est important, c'est-à-dire que la Genèse, pour moi, c'est déjà très tard dans l'existence.
Ouais.
C'est-à-dire que l'animal est là bien avant la Genèse.
Ouais, vous avez pris Genèse 2, verset 19, les auditeurs iront le lire.
Voilà, et ce que d'ailleurs je trouve assez incroyable, c'est-à-dire de quel droit l'homme s'arroge le droit de tout nommer, comme si tout était à lui, qu'il était au-dessus de la pyramide. Mais les nommer, c'est les faire rentrer dans son histoire. Nommer quelque chose, c'est le faire rentrer dans ton histoire. Donc l'homme a absolument besoin de faire tout rentrer dans son histoire. C'est-à-dire la forêt, la nature, le globe, l'univers, l'animal, le cheval, le chien, le
cycle. Les gestes, il ramène tout à lui.
Il ramène tout à lui. Et moi, je pense que le problème de l'homme, c'est qu'il n'arrive pas à concevoir qu'il y a un monde plus vaste que le sien. Notamment le monde des animaux, qui est beaucoup plus vaste que le monde des humains. Vaste dans tous les sens du terme.
Mais c'est là où on dit que vous êtes... Un chaman aussi. Est-ce que alors ça,
bah, ouais,
est-ce que c'est une étiquette qu'on vous a plaquée, mais qu'il y a quelque chose de chamanique
dans votre... J'ai fait un film
qui
s'appelle Chaman en Sibérie, oui. Mais oui, si on veut, on pourrait dire que
c'est l'écoute des éléments et l'écoute de la nature.
Les chamans sont les premiers écologistes, hein, parce que quand ils...
Vous vous sentez un peu chaman ou c'est juste une étiquette qu'on vous a collée.
Je me sens. Si je devais me rapprocher d'une conception de l'univers, je serais plutôt animiste. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, l'homme est une des composantes du monde sur lequel il vit, c'est-à-dire la Terre. Il n'est pas plus important que le rocher, la forêt ou l'animal.
Mais dans l'animisme, il y a esprit.
Ni moins, ni plus.
Il y a esprit, donc ça veut dire qu'il y a plus que la matière.
Oui, mais... et alors, j'allais dire, et alors
je veux dire, l'animiste essaye de se mettre à l'écoute de ses esprits, à l'écoute de cette transcendance, de cette autre que le
moi,
visible.
Moi, je pense que l'animal est beaucoup plus à l'écoute de la nature, donc de ce qui l'entoure, que l'être humain. Je dis souvent, plus l'être humain sait de choses, moins il sent les choses. C'est-à-dire qu'on a perdu notre capacité de ressentir. Alors, ressentir avec ce qui nous entoure, puisqu'on s'éloigne de la nature, on habite dans des appartements, dans des maisons, etc. Donc on s'éloigne de la nature. Pour prendre des anecdotes très simples, dans le temps, dans les campagnes, bon, ça c'est le truc basique. Les paysans pouvaient te dire, ah, j'ai mal là, il va pleuvoir demain. C'est une manière d'être à l'écoute de la nature dans son corps, même si là elle est assez grossière, quoi. Mais c'en est une, je veux dire. Donc ça, l'homme a perdu ça, quoi. Mais même dans ses rapports humains. C'est-à-dire, il a perdu l'écoute, il a perdu il n'est plus capable de ressentir l'autre.
Et ça, c'est ce que les chevaux
alors
vous ont enseigné.
Alors que l'animal ressent l'autre, bien sûr.
Les chevaux vous ont enseigné ça.
Ah, bah, bien sûr, bien sûr.
Apprendre
à
ressentir.
Vous savez, les chevaux, ils sentent, j'aime pas dire les chevaux en général. Le cheval avec qui vous avez lié une relation, hein, tu es en piste, voilà, tu vas rentrer en piste. Je peux vous dire que si jamais vous êtes un peu stressé parce que vous avez le trac, parce que, je sais pas, c'est une première ou vous avez des amis dans la salle, le cheval, il le ressent tout de suite, parce que vous n'êtes pas comme d'habitude. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une critique ou pas. C'est-à-dire, selon le cheval, s'il est assez froid, s'il est très émotif, ça va le contrarier. Voilà, donc il ressent ces choses-là. On ne peut pas dire que le cheval ne sait pas ce qu'il fait quand il fait un spectacle. C'est pas vrai, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais il ressent les tensions du public, il ressent l'énergie, les énergies. Nous ne savons plus écouter les énergies.
Barthabas, pour terminer cet échange, qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureux dans votre vie ?
Là, c'est la question piège. Je pourrais pas répondre comme ça, mais je vais vous en dire une qui m'a rendu heureux et qui est assez importante. Et plus avec le temps, elle a l'air de.
Non, mais là, vous avez fait une grande relecture de votre vie dans ce livre. Moi, c'est pas une anecdote, pas une anecdote, mais vraiment quelque chose de sincère qui est vraiment qui vous a rendu
heureux. De toute
façon,
c'est lié dans le rapport avec les chevaux, évidemment. L'anecdote que je vais vous raconter, donc le moment qui m'a rendu heureux. Paraît pas seulement parce que ça, pour certaines personnes, ça les aurait rendu triste. C'est le cheval Horizonte que j'ai donc côtoyé pendant 25 ans. Je l'ai mis à la retraite. Et c'est un des rares chevaux que j'ai été voir à la retraite dans son pré. Et le cheval ne m'a pas reconnu. Je me suis approché de lui, il m'a pas reconnu, comme je le raconte d'ailleurs dans le livre. Il était devenu un autre cheval. Il était devenu un cheval dans un pré. Je dis, il était un yogi, maintenant il est devenu un sage, quoi. Et quand je suis parti en voiture, le cheval m'a même pas regardé, il était en train de regarder la jument de l'autre côté du pré. Il y a des gens qui disent, c'est triste. Et moi, j'ai trouvé ça très beau, parce que ça veut dire que je ne l'ai pas mis dans un état de dépendance. C'est-à-dire que maintenant, il a une autre vie, il vit sa vie, enrichi de peut-être ce que nous avons vécu ensemble, mais je ne l'ai pas mis dans un état de dépendance. Quoi. Et ça m'a profondément rendu heureux. Quoi.
Merci beaucoup, Bartabas. J'étais ravi de vous rencontrer. Merci pour ce livre que j'encourage à la lecture, que vous venez de publier chez Gallimard, qui s'intitule « D'un cheval, l'autre ». On découvre aussi bien les chevaux que Bartabas. Merci à vous.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laure Sylvestre et Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.